Vous êtes sur RTL.
Votre journal maintenant avec Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
La mise en place d'un nouveau permis moto, la prise en compte des trajectoires sera renforcée pour plus de sécurité.
Dans ce journal également, un nouveau président pour la SNCF. Jean-Pierre Farandou va succéder à Guillaume Pepy en 2020. Fini la brouille entre Paris et Rome. Emmanuel Macron était en Italie hier pour évoquer notamment la question migratoire. Et puis le football, bien sûr. Le PSG a corrigé le Real Madrid 3-0 hier soir en Ligue des Champions.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
23 degrés, du soleil et du vent, c'est le programme météo de l'après-midi à Segré dans le Maine-et-Loire.
RTL Matin.
Il ne représente que 2% des usagers, mais 20% des morts sur la route. Les motards vont bénéficier d'un permis de conduire aménagé.
Oui, présentation aujourd'hui de la trajectoire de sécurité, un dispositif qui sera intégré à l'examen début 2020. L'accent sera mis sur la prise des virages afin d'augmenter la sécurité et donc de faire baisser les statistiques. Nicolas Burnand, vous avez testé ces nouvelles réglementations.
Au volant de sa voiture, André suit trois élèves à moto sur une route départementale en pleine forêt. À l'aide d'un talkie-walkie, le formateur donne ses conseils.
Vous avez l'abord d'un virage et vous vous placez un peu à l'extérieur pour mieux voir. Le menton relevé, Gabriel, très important de chercher la sortie du virage de manière à être plus à l'aise, mieux déterminer le tracé.
Sur la route, les élèves accélèrent, ralentissent, enchaînent les virages. Après 15 minutes d'exercice, Gabriel n'est pas encore très à l'aise.
C'est le truc que je dois travailler un peu plus, c'est justement comment bien me pencher, ou plus la vitesse augmente et plus s'il se passe quelque chose, l'impact est fort. Il faut clairement y faire attention, pas dépasser, voire être en dessous des limites pour prendre moins de risques et on en est pas sûr.
En dehors des grandes villes, les sorties de route dans les virages sont à l'origine de 42% des accidents mortels, selon les chiffres de la sécurité routière. Philippe Monneret est responsable de la moto-école.
Une moto, il y a quand même une largeur de pneus en contact avec le sol qui est l'équivalent d'une carte de crédit. En moto, on a des problèmes d'adhérence qu'on rencontre beaucoup moins en voiture. C'est plus compliqué de piloter une moto.
La loi impose 20 heures de conduite obligatoire pour le permis moto. Les trajectoires sont enseignées, mais pas encore évaluées.
Le reportage de Nicolas Burnand pour RTL. Jean-Luc Mélenchon à la barre. Le président de la France insoumise comparaît pendant deux jours devant le tribunal correctionnel de Bobigny après les incidents ayant émaillé la perquisition au siège du mouvement en octobre 2018. Il est poursuivi pour 5 infractions, notamment acte d'intimidation envers un magistrat, le délit le plus grave. Jean-Luc Mélenchon dénonce de son côté, on le sait, un procès politique.
Et Adrien Quatennens, député insoumis du Nord, sera l'invité d'Alba Ventura à 7h45 sur RTL. Pour l'heure, il est 6h et quasiment 3 minutes, un nouveau visage à la tête de la SNCF, son nom Jean-Pierre Farandou.
Il remplacera Guillaume Pepy début 2020, actuellement patron de Keolis, la filiale transport en commun du groupe. Il est âgé de 62 ans. Ce choix a été confirmé hier soir par l'Élysée. Jean-Pierre Farandou aura plusieurs dossiers chauds sur son bureau, Éric Vanier.
Les dossiers chauds ne manquent pas. La réforme ferroviaire doit se mettre en place au 1er janvier, avec notamment la fin du statut pour ceux qui entrent dans l'entreprise. Il faut d'ici là trouver par quoi sera remplacé ce statut, quelles seront les conditions d'embauche des futurs cheminots. Les discussions ont débuté. Elles patinent sur fond de crispation autour de la réforme des retraites. Jean-Pierre Farandou, qui maîtrise bien le sujet en tant que président de l'Union des transports publics, l'organisme patronal qui représente les réseaux, devra donc débloquer, relancer la négociation. Ce sera aussi le patron de l'ouverture à la concurrence. Elle n'a jamais été aussi proche. Dès la fin de l'année prochaine, des compagnies pourraient venir chasser sur les terres de la SNCF. À venir aussi le dossier sensible de l'avenir des petites lignes. Là aussi, Jean-Pierre Farandou, qui a dirigé le réseau TER, connaît parfaitement le sujet. Un rapport sur le devenir de ces petites lignes doit être publié dans quelques semaines. Même si ça concerne avant tout les collectivités locales, le nouveau président de la SNCF ne pourra pas s'en désintéresser.
Les précisions d'Éric Vanier. À noter aujourd'hui une grève à EDF contre le projet de réorganisation, puisque le gouvernement envisage de scinder l'entreprise en deux entités, l'une détenue par l'État, dédiée aux activités nucléaires, et l'autre ouverte aux capitaux privés, consacrés aux énergies renouvelables. Inconcevable pour Philippe Page, le maire de la CGT-EDF.
C'est la vente à la découpe de l'entreprise classique, hein, comme on voit dans d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire que les financiers considèrent qu'on peut faire du cash en privatisant une partie de l'entreprise pour casser EDF, mettre fin à ce grand service public, le porter sur les places financières et finalement transformer cette électricité, produit de première nécessité, en marchandise comme les autres. Et on vend l'électricité comme on vend une assurance. Point barre. Ça veut dire que EDF est mis au même rang que Leclerc, Total, Engie et consorts. Pour nous, c'est uniquement un projet qui tend à faire du fric. C'est contre ça qu'on lutte aujourd'hui.
Philippe Page, le maire Ourde de la CGT EDF. En bref, Édouard Philippe recevra aujourd'hui à 17h30 une délégation d'entreprises du secteur du médicament. L'objectif, selon Matignon, est d'engager rapidement des actions pour faire face à la pénurie de médicaments auxquels un quart des Français a déjà été confronté.
RTL, 6h05. Emmanuel Macron était en visite en Italie hier pour renouer le fil entre Paris et Rome.
Après une année de tensions avec notamment les leaders de la précédente coalition populiste au pouvoir et en particulier Matteo Salvini, l'ex-ministre de l'Intérieur, le chef de l'État est venu tourner la page en compagnie du chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Un message à la fois diplomatique et politique.
Ma présence aujourd'hui, c'est d'abord la volonté marquée de travailler ensemble pour la relation bilatérale et pour le projet européen. Vous l'avez parfaitement rappelé. Et c'est aussi un message fort et clair envoyé au peuple italien d'amitié. Notre souhait est de renforcer la coopération bilatérale et européenne et je veux revenir simplement sur quelques sujets. Le premier, évidemment, c'est le sujet des migrations. Sur ce sujet, je ne mésestime pas ce que, depuis 2015, le peuple italien vit, ce que l'Italie a subi, et là aussi avec beaucoup, parfois, de malentendus, d'incompréhensions, d'injustices qui ont été vues, perçues et qui ont suscité de la colère. Je crois très profondément, comme vous l'avez dit, que la réponse au sujet migratoire n'est pas dans le repli, la provocation nationaliste, mais la construction de solutions et de coopération européenne réelle et efficace.
À propos recueilli par Anne Treka pour RTL, les deux dirigeants se sont dit d'accord pour un mécanisme automatique de répartition des migrants auxquels les pays de l'Union devraient participer sous peine de pénalité financière. Ils ont également réclamé une gestion plus efficace du renvoi dans leur pays d'origine des migrants qui n'ont pas droit à l'asile. Téhéran directement pointé du doigt par les États-Unis. Les attaques contre les infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite samedi dernier ont bien été perpétrées par l'Iran et approuvées par l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien. C'est ce qu'indique cette nuit la télévision américaine CBS. Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État Mike Pompeo, en visite en Arabie Saoudite, avait assuré que cet acte de guerre, je cite, portait les empreintes digitales de l'ayatollah. Beaucoup d'options existent pour répondre à l'Iran, a indiqué un peu plus tard le président Donald Trump.
Allez, on marque une courte pause dans votre journal, Yann, avant d'évoquer la démonstration du PSG. 3-0 hier soir face au Real Madrid, le PSG qui joue mieux sans ses stars.
RTL Matin, Julien Cellier.
La suite de votre journal à 6h08 sur RTL avec le PSG qui a donc parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions.
Paris a corrigé le Real Madrid de Zidane 3-0 hier soir au Parc des Princes grâce à un doublé de Di Maria et un but de Meunier en fin de partie. Les absences de Neymar mais aussi de Mbappé et Cavani n'ont donc pas pesé. La satisfaction du milieu de terrain Idrissa Gueye au micro de Philippe Sanfourche.
Oui, c'est une entame parfaite et voilà, c'était important de bien commencer, surtout à domicile contre une grande équipe et voilà, on a su le faire avec la manière. Même dans les moments difficiles, on a su rester costaud, bien défendre et jouer en contre-attaque et dans les bons moments, on a su garder le ballon et faire tourner, les mettre en difficulté et surtout respecter les consignes du coach qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui et voilà, c'est important pour la suite de la compétition.
Idrissa Gueye avec Philippe Sanfourche dans le groupe du PSG. Bruges et Galatasaray ont fait match nul 0-0. Ce soir, place à la Ligue Europe. Rennes se rend au Celtic Glasgow à 18h55 et Saint-Etienne se déplace à la Gantoise en Belgique à 21h. À l'Euro de volleyball, la France a surclassé l'Italie 3-7-1 hier à Montpellier, toujours invaincue. Elle affrontera la Finlande samedi en 8e de finale et puis en rugby pour le France-Argentine de samedi en ouverture de la Coupe du Monde. Romain Ntamack a été titularisé à l'ouverture. Elle a perdu Fikou Vakatawa au centre en l'absence de Fofana. Forfait.
Le quintet à Vincennes aujourd'hui.
Et voici les pronostics de Claude Pierre-Santi. Le 7, le 13, le 12, le 16, le 9, le 6, le 11, le 2. Et la dernière minute, justement, le 12, Baron du Bourg.
Merci Yann, à tout à l'heure à 7h.